Je suis Monsieur Piton Lionel. J'ai commencé dans la réparation navale dans les années 90 comme soudeur. En soudure, j'ai fait, on va dire, 21 ans dans la soudure. J'ai travaillé, il y a Brest, j'ai travaillé à Concarneau, j'étais à Lorient, souvent à la Sobrenor. J'ai travaillé sur le porte-avions, sur le Mistral et le Tonnerre. Et après, à la suite, j'ai fait une formation d'appareilleur pour travailler sur les sous-marins nucléaires. J'ai fait 2 ans. Et là, là, je suis attaqué ma 6e année comme carineur.
La grande maison. Histoire d'Arsouille. À retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci.
Comment est-ce que vous arrivez à l'arsenal? Comment est-ce que vous en arrivez à rentrer?
C'est avec les boîtes intérimaires. On commence en intérim avant. Et après, c'est des sociétés, si on reste plus longtemps, ils peuvent nous proposer un CDD ou un CDI.
Donc vous n'entrez pas par les arpètes?
Non, non.
Vous rentrez en tant que boîte privée?
Oui, boîte privée.
Avec quelle boîte du coup?
Alors, quand j'ai commencé, c'était avec Timolor. Après, là, c'était en soudure. Là, comme appareilleur, c'était avec SPRD. Et là, je suis encore en fonction, je travaille encore dans l'arsenal de Brest, mais là, comme carénaire, avec la société SLPN.
Et pourquoi est-ce que vous n'entrez pas par les arpètes? Qu'est-ce qui fait que les arpètes existent encore à ce moment-là, mais vous ne passez pas le concours?
Non, non.
Vous désirez rentrer à l'arsenal ou en fait, peut-être que vous faites la formation, mais ne pensant pas forcément rentrer à l'arsenal ensuite, travailler à l'arsenal?
J'avais été chez mon père qui était carréneur et il travaillait déjà à l'arsenal. C'est grâce à lui que j'ai pu commencer à mettre, on va dire, un pied dans l'arsenal, dans la réparation navale. Quand on est en intérim, on rentre dans une société et c'est les personnes qui sont dans la société, c'est eux de nous former. Donc, quand on arrive le premier jour, on va dire, ils nous laissent un délai de un mois ou 2 mois pour apprendre bien le métier. Après, s'ils voient est-ce qu'on est autonome, qu'on a bien compris, là, ils peuvent nous dire, tiens, tu prends deux personnes avec toi et tu vas te monter cette pièce-là et voilà. Alors, mon premier métier, c'était soudeur. J'ai fait formation à l'AFPA 1 an et demi. Et après, derrière, c'était des sociétés sur Brest qui cherchaient des soudeurs. Et que comme ça, j'ai commencé. Et après, j'ai fait pas mal de construction, de réparation, voilà.
Et donc, vous devenez, à un moment donné, appareilleur.
Voilà.
En quelle année est-ce que ça intervient?
Alors, l'appareillage, j'ai dû commencer en début 1998. Et j'ai fait, on va dire, 2 ans là-bas. Mais là, en appareilleur, c'était sur les sous-marins.
Et comment est-ce que... Déjà, deux questions, en fait, en quoi consiste ce métier d'appareilleur et comment est-ce que vous arrivez à devenir appareilleur après votre métier de soudeur?
Alors, moi, j'avais vu sur une boîte intérimaire qui cherchait une société, plutôt. Une société qui cherchait des appareilleurs. Moi, j'étais, la boîte intérimaire avec qui je travaillais. J'ai dit, moi, ça m'intéresserait. J'ai postulé pour ce poste. Après, on a fait des formations. Et à la suite de ces formations, c'est comme ça j'ai pu rentrer à SPRD pour travailler sur les sous-marins.
Et donc, le métier d'appareilleur, en quoi ça consiste?
Alors, le métier d'appareilleur, c'est démonter les moteurs, tout ce qu'il y a dans le sous-marin. Les bouteilles d'oxygène, les tableaux électriques, les compresseurs, les moteurs, les hélices, l'arbre d'hélice. Après.
C'est tout ce qui concerne le montage et le démontage des
voilà.
pièces.
Au début, ben, quand il vient le sous-marin OB-8, il est en refonte, on appelle ça. En refonte, c'est. On le. Désolé du mot, mais on le met à nu complètement. On démonte tout ce qu'il y a dedans. On le vide complètement. Et c'est grâce à ça que nous, appareilleurs, on puisse démonter ces moteurs. Que...
Mais donc c'est très polyvalent, puisque vous arrivez à devoir monter et démonter toutes sortes de pièces.
Oui, oui. C'est un peu comme, bah, on appelle ça, avant, on appelait ça la manutention. Et là, maintenant, c'est plus renommé manutention, c'est appelé appareilleur.
Et donc, combien d'appareilleurs peuvent intervenir comme ça sur une refonte de sous-marin?
Quand on fait une refonte de sous-marin, on va dire, on travaille environ entre trois équipes. À trois équipes, c'est y a une équipe qui commence de 6 heures jusqu'à 13 heures. Il y a une autre équipe qui commence de 13 heures jusqu'à 22 heures. Et il y a une équipe de nuit, eux, ils commencent à 22 heures et finissent à 6 heures du matin. Et ça tourne comme ça, on travaille, on va dire, une semaine comme ça. Et la semaine après, ben, celle qui a fait de 6 heures jusqu'à 13 heures, ben, après de 13 heures jusqu'à 22 heures. Et ça tourne comme ça. Et après, ben, on donne ceux qui viennent, si nous, on travaille, on finit à 13 heures. Ben, on dit aux responsables, ben voilà, il y a ça à faire, il y a cette pièce-là à monter, il y a ça à redescendre.
Comment d'ailleurs s'organise votre planning? Comment est-ce que, combien de temps à l'avance, vous savez, aujourd'hui, vous allez devoir démonter telle pièce?
Alors ça, on va dire, le lundi, on sait, quand on arrive, ben, le chef d'équipe, il nous dit, ben voilà, vous allez à tel poste, vous allez sur le moteur, et vous savez, on va dire, la journée pour le démonter. Et après, ben, on est pour, on va dire, pour un moteur, on est, on va dire, à, ça peut aller à entre 5 et 6 appareilleurs.
Donc c'est vraiment au jour le jour.
Oui, voilà, c'est ça. C'est... Le lundi, on peut nous dire, bah, tiens, vous allez à ce poste-là. Et le lendemain, on nous dit, bah, vous avez autre chose à faire. C'est pas tout le temps, on ne reste pas tout le temps au même poste. La boîte intérimaire, elle nous forme, elle nous place. Mais après, on n'a plus rien à faire avec la boîte intérimaire. Après, c'est avec la société. Avec la société, on travaille avec eux, les titulaires.
Avec Naval Group.
Avec Naval Group. Et Naval Group, ils nous disent, ben voilà, vous faites ça. Le gars, l'appareilleur, il va vous montrer, vous regardez bien et vous donnez un coup de main. Mais après, entre intérimaire et titulaire, bon, ça peut arriver, il peut y avoir des conflits. Ça peut arriver. Mais nous, on est là, c'est pour voir le métier et apprendre le métier.
Donc après, une fois dans le travail, il n'y a plus tellement de distinction entre vous et les ouvriers d'État?
Ça peut arriver. Ça peut arriver avec certains, on va dire, titulaires de TCNS. Ça peut arriver que bah, on est, on dit, bah, vous êtes qu'intérimaire, vous pouvez être là aujourd'hui et là, vendredi, on peut vous dire fin de mission. Mais non, après, si on s'entend bien avec les responsables, ça peut aller, le courant passe.
Et justement, en tant qu'intérimaire, vos contrats, ils sont toujours variables ou est-ce que, par exemple, à chaque fois, ça concerne la totale refonte d'un sous-marin ou, parce que vous m'avez dit aussi précédemment que vous avez fait tout le Charles de Gaulle. Mm. À ce moment-là, voilà, le contrat dure le temps entier du chantier ou par exemple, vous pouvez n'avoir un contrat que pour deux semaines
Quand on commence à l'arsenal de Brest, on a les intérimaires, on a même dans toutes les boîtes. Ils commencent par des contrats de une semaine. Après, au bout de, on va dire, 2 mois, au bout de 2 mois, là, la société peut dire, on fait un contrat au mois. Mais même dans le mois, s'il y a moins de travail, on peut nous dire, ce soir, vous êtes fin de mission. Et là, fin de mission, ça veut dire coupure du contrat.
Et donc, vous restez 2 ans à pareilleur.
Oui.
Qu'est-ce qui vous fait arrêter ?
Moi, c'est pas moi qui ai arrêté, c'est la société qui nous a fait arrêter. Parce que elle a fait une baisse de charge. Et comme il a fait moins de travail pour les intérimaires, ils ont dit ils ont voulu plus privilégier leur titulaire que les intérimaires. Alors c'est pour ça, au début, on voyait, il y a pas mal d'intérimaires qui, le vendredi, fin de mission, et le lundi, on ne les voyait plus. C'est arrivé après en 2000.
Mmh.
Que tout, on a fait remonter dans le sous-marin, que là, ça a commencé à, on appelle ça, à décresser, avoir moins d'intérimaires.
Donc vous arrêtez en tant qu'appareilleur, et qu'est-ce que vous faites ensuite ?
J'ai travaillé après un peu comme continuer un peu dans l'appareillage, mais là c'était au porte-commerce. C'est quand il a fait la sobrenom, maintenant c'est Damen. Et après, j'avais vu sur une annonce qu'une société cherchait un ACLIS.
Un comment, pardon ?
Un ACLIS. C'est une personne qui conduit une nacelle pour aller travailler à hauteur. Et la société, j'ai eu un entretien avec le responsable, le chercheur d'affaires, et chercher des personnes avoir déjà travaillé dans la navale, et après avoir ce KSS, on appelle ça un KSS nacelle.
Donc vous faites cette formation-là, et ensuite vous devenez carineur.
Et ensuite je deviens carineur.
D'accord, ok. Et donc avec une nouvelle boîte ?
C'est avec une nouvelle boîte. Là, ça fait 5 ans que je suis dans la société. La société, c'est la société SLPN. Et là, ça fait 5 ans que je suis dedans. Carineur, c'est repeindre tous les bateaux. Ça peut être les remorqueurs. Ça peut aller au bateau d'école de l'école navale. C'est faire l'UHP, c'est travail à haute pression. C'est 2700 bars. Et là, on fait plus sur la carène, c'est tout ce qui est l'anti-fouling. On remet le bateau à la ferraille comme il a été construit pour remettre une peinture plus mieux.
Thank you.
Bah, les meilleurs moments, c'est bah, travailler toujours dans comment travailler sur les bateaux de l'armée, parce que bah, ce n'est pas tout le temps pareil. La construction, réparation, c'est ça que j'ai tellement aimé, parce que bah, voir un pot de tôle, un morceau de ferraille, et construire, bah, comme je vais dire, le Charles de Gaulle et même le Mistral et le Tonnerre, et que je vois maintenant à la télé, je dis, ouais, c'est vrai que c'était beau bâtiment. Et le mauvais moment, c'est bah, il y a pas mal d'accidents, on va dire. Il y a pas mal d'accidents, après les conditions.
Vous parlez des conditions, moi, soudeur, je pense de suite au double fond. Donc, qui sont du coup l'espace entre la coque et le revêtement intérieur du bateau, quoi.
Bah nous, on appelle ça les ballasts. On appelle ça les ballasts, et c'est vrai, en suture, les ballasts, bah, l'été, c'est ça chauffe 10 fois plus vite. On est obligé de sortir souvent. C'est pour ça que quand on est dedans, il y a un surveillant de trou. On appelle ça un pompier, encore si on a un malaise. Ben, il prévient. Et après l'hiver, c'est sûr, bon ben là c'est mieux. Mais on est souvent à travailler comme ça, oui.
Encore aujourd'hui.
Ah, encore aujourd'hui, oui. Ah, oui. Même que ça soit même en soudure ou que ça soit comme carineur, on continue à aller dans les doubles fonds. Et même souvent, ça peut nous arriver à aller travailler en dessous la ligne d'arbre ou à travailler en dessous le moteur. Et là, bah, on est complètement, on peut pas être debout, on est complètement accroupi. Ou même souvent, on est allongé et il y a de l'huile. C'est vrai que les conditions sont pas. Faut pas avoir peur, de rentrer dedans.
Est-ce qu'à un moment donné, vous auriez souhaité être peut-être titularisé au sein de l'Arsenal, ou est-ce que vous avez au contraire aimé cette liberté en quelque sorte qui vous a permis aussi ben, de travailler également au port de commerce et de changer de métier régulièrement?
Quand on était, nous, quand on arrivait, on disait qu'on était intérimaire, on était un peu mal vu. Parce que, on va dire, dans les années 90, on était mieux payé que les titulaires. Et c'est pour ça, bah, moi, j'ai continué dans ce rester dans l'intérim. Et après, arrivé à un âge, j'ai dit, bah non, moi, maintenant, je veux avoir quelque chose de concret, avoir un CDI. Bon, j'ai eu tes propositions, mais les conditions, ça ne m'arrangeait pas. J'ai eu que 2 CDD. J'ai eu un avec Timolor et un avec DCNS. Et là, le CDI que j'ai, ben, c'est avec SLPN,
En tant que carréneur.
en tant que carréneur.
Et dans toutes les émissions qu'on a pu faire dans la grande maison, à chaque fois, on a parlé énormément de syndicats, de grèves. En tant qu'intérimaire, comment cela se passait pour vous du coup?
Quand il avait les greffes, nous, étant intérimaires, on ne pouvait pas aller aux greffes. On ne pouvait pas arrêter de travailler. On était obligé de continuer. Si on allait, on va dire, aux manifestations, au rassemblement des syndicats, ben, on va dire, on était mal vu. Même après, on savait que derrière, on allait être mis derrière à la porte. C'est pour ça que on pouvait pas manifester. Même les titulaires disaient, mais venez avec nous, on va vous défendre, on va tout faire. Mais bah, souvent, il y en a qui allaient. Mais après, bah, le chef d'équipe ou le patron disait, bah, fin de mission, parce que non, vous êtes intérimaire, vous n'avez pas trop. Vous n'êtes pas syndiqué, il n'y a pas de syndicat pour vous. On peut pas se défendre. Et c'est pour ça, après, les personnes qui sont parties, et ils sont créés un syndicat intérimaire. Et c'est grâce à eux que après, quand nous, il a fait des grèves, que là, on bouffait, mais il fallait être syndiqué. Si on n'était pas syndiqué, on ne pouvait pas y aller.
Et ça, c'est arrivé en quelle année, la création de ce syndicat?
la création du syndicat intérimaire, c'est arrivé en 97.
Et vous savez combien de temps il vous reste encore à travailler ?
Non, là je suis en train de faire un dossier pour l'amiante. Et c'est grâce avec ce dossier-là que je pourrais partir peut-être plus tôt qu'il faut.
La Grande Maison, une émission de Martin, Cause et Léouette, à retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec. Et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Il y a tout ça en raccourci.